Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche, vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce mercredi 3 mai 2023. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. Eurojet for une Blackwater européenne. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, le président iranien reçu par son homologue syrien à Damas. Le meurtre du gréviste palestinien en détention est un crime contre l'humanité, déplore la diplomatie iranienne. Et puis le CGRI saisit un pétrolier étranger dans le détroit d'Ormuz. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le président iranien Ebrahim Raisi s'est entretenu ce mardi avec son homologue syrien Bachar al-Assad après son arrivée à Damas pour une visite historique visant à renforcer les relations bilatérales alors que la Syrie a lancé la saison de la reconstruction après plus d'une décennie de guerre avec des groupes terroristes soutenus par l'étranger. Le président iranien a eu droit à une cérémonie de réception officielle à son arrivée au Palais du Peuple, puis les hymnes nationaux de la République islamique d'Iran et de la République arabe syrienne ont été joués. Les rues de la capitale syrienne Damas ont été décorées des drapeaux de la République islamique d'Iran et drapeaux syriens avant la première visite de Raisi à Damas. Le président iranien est arrivé le mercredi 3 mai à Damas, capitale syrienne, pour la première visite du genre en 13 ans. Il a été reçu par le chef de la mission honoraire, le ministre syrien de l'économie, Samer Khalil, et le ministre d'État aux affaires de la présidence, Azam Mansour. La visite du président iranien à Damas s'inscrit dans le cadre de la conclusion de plusieurs accords économiques et politiques entre Téhéran et Damas. Le président iranien a déclaré que ce voyage est effectué à l'invitation du président syrien et conformément aux relations stratégiques entre l'Iran et la Syrie. Aujourd'hui, il est devenu clair pour tout le monde que les positions de la République islamique d'Iran sont fondées sur la rationalité, la perspicacité, la justesse et qu'elles sont proches de celles de la résistance, a-t-il dit devant un parterre de journalistes avant de quitter Téhéran pour Damas. Le président iranien insiste sur la souveraineté de la Syrie sur tous ses territoires, affirmant que les forces américaines stationnées illégalement dans le pays doivent partir immédiatement. Dans une interview à la chaîne Al-Mayadin, la chaîne libanaise, le président iranien Ebrahim Raisi a qualifié de mensongères les allégations avancées par les États-Unis qui prétendent lutter contre le terrorisme en Syrie. Il a déclaré que les forces américaines géraient en fait le terrorisme dans ce pays. M. Raisi a déclaré qu'au Téhéran se félicitait de la reprise des relations entre la Syrie et d'autres pays, en particulier les États de la région. Le président iranien a appelé au retour de tous les réfugiés syriens dans leur pays. Il a déclaré que l'Iran était prêt à aider la Syrie dans sa reconstruction et que les relations entre Téhéran et Damas étaient stratégiques et que sa visite en Syrie visait à donner un élan aux liens bilatéraux dans tous les secteurs. Dans une autre partie de son entretien, il a souligné que le premier acte d'agression du régime israélien contre l'Iran serait également son dernier, car selon ses propres termes, le régime sioniste ne serait pas capable de survivre à la contre-attaque de la République islamique. Les menaces du régime sioniste ne sont que de vaines rhétoriques auxquelles personne au monde ne croit. Si l'ennemi sioniste venait à prendre des mesures contre nous, notre première réaction coûtera à sa survie, a-t-il renchéri. L'autorité de la République islamique n'est cachée à personne dans la région. Le premier acte de folie potentiel du régime sioniste contre l'Iran serait aussi son dernier, a-t-il martelé. Et de poursuivre, le régime sioniste ne pourrait pas survivre même au premier instant de la réaction de l'Iran. Le président Raisi est arrivé à Damas ce mercredi 3 mai. La visite du président iranien en Syrie fait depuis quelques jours l'objet d'une couverture médiatique internationale. Le porte-parole de la diplomatie iranienne dénonçant fermement la mort en martyr du gréviste palestinien en détention l'a qualifié de crime contre l'humanité. Réagissant à la détention et les mauvais traitements infligés par le régime israélien au gréviste de la faim palestinien Kader Adnan, décédé en prison, il a déclaré que le silence de la communauté internationale ne ferait qu'enhardir le régime d'occupation. Dans une déclaration publiée mardi 2 avril, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a fait cette remarque après que Kader Adnan, l'un des principaux dirigeants du mouvement du djihad islamique, a trouvé la mort dans une prison israélienne après une grève de la faim qui a duré 87 jours. Le mode de détention de ce gréviste de la faim palestinien par le régime israélien est un exemple clair du comportement inhumain et violent adopté de manière organisée et généralisée par ce régime d'apartheid à l'encontre de la nation et des combattants palestiniens au cours des 7 dernières décennies, a-t-il déploré. Le diplomate iranien a également noté que la mort en martyr de ce combattant dans une prison israélienne fait ressortir la justesse de la résistance de la nation palestinienne et son oppression par le régime israélien. Nasser Kanani a en outre critiqué la réponse muette de la communauté internationale aux crimes israéliens en cours contre les Palestiniens, affirmant que le silence sur la mort d'Adnan enhardira davantage le régime de Tel Aviv. Il a également salué la digne résistance de la nation palestinienne contre l'occupation et les atrocités du régime israélien, tout en présentant ses condoléances à la famille d'Adnan et au groupe de résistance, en particulier le djihad islamique. Arrêté le 5 février, Adnan a immédiatement entamé une grève de la faim pour protester contre sa détention illégale. Au cours des 20 dernières années, Adnan a été arrêté une douzaine de fois par les forces israéliennes pour ses activités politiques et anti-occupation. Il a passé au total 8 ans derrière les barreaux. Enfin, le corps des gardiens de la révolution islamique saisit un pétrolier étranger dans le détroit d'Ormuz. La marine du corps des gardiens de la révolution islamique a saisi ce mercredi 3 mai un pétrolier étranger en infraction dans les eaux du détroit d'Ormuz. Les raisons de la saisie du pétrolier étranger ne sont pas encore claires selon l'agence de presse iranienne Tasnim. La cinquième flotte de l'US Navy a quant à elle prétendu qu'un pétrolier battant pavillon panaméen a été confisqué au moment même de son entrée dans le détroit d'Ormuz. L'armée iranienne avait déclaré aussi le jeudi 27 avril avoir saisi un pétrolier battant pavillon des îles Marshall dans le golfe d'Oman après qu'il soit entré en collision avec un bateau iranien, blessant plusieurs membres d'équipage, a-t-on appris de la même source. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Eurojetfor, une Blackwaters européenne. La société américaine Blackwaters était toujours critiquée pour ses crimes au Moyen-Orient. Mais un modèle européen de cette machine de guerre et de violence est né au sein de l'Europe pour réprimer les peuples du continent vert. Les crimes des sociétés militaires privées occidentales ne sont pas rares au Moyen-Orient et en Afrique. Depuis quelques années, les médias occidentaux se sont focalisés plutôt sur une structure sécuritaire russe. Le président français Emmanuel Macron, au même titre que ses homologues occidentaux, ne rate aucune aubaine pour s'attaquer à l'entreprise russe Wagner, la qualifiant d'organisation terroriste et l'accusant d'exactions en Ukraine ou en Mali, en RCA et au Burkina Faso. Mais la France et les autres pays européens eux-mêmes, ils ont créé une structure militaire au cœur du continent vert en vue de réprimer les nations européennes. Eurojetfor est une armée secrète privée européenne dont la fonction est de servir les objectifs de la Commission européenne. Cette armée secrète, ou unité d'intervention spéciale, est composée de 3000 hommes, police politique, judiciaire, armée et pourvue de services secrets. Ces missions se réalisent en étroite coopération avec les armées européennes afin de garantir les intérêts de politiciens occidentaux. En d'autres termes, faire cesser toute révolte populaire au sein des États membres de l'Union européenne qui adhèrent à Eurojetfor. Cette troupe paramilitaire a été fondée sans aucune légitimité démocratique, en toute opacité, et chaque État peut faire appel à la FGE pour mater quelque crise, quoi que soit. En d'autres termes, faire cesser toute révolte populaire au sein des États membres de l'Union européenne qui adhèrent à Eurojetfor. Cette troupe paramilitaire a été fondée sans aucune légitimité démocratique, en toute opacité, et chaque État peut faire appel à la FGE pour mater quelque crise que ce soit. Les compétences de cette unité sont pratiquement limitées et elle doit, en coopération étroite avec les militaires européens, garantir la sécurité en territoire de crise européen. De plus en plus d'États membres de l'Union européenne adhèrent à Eurojetfor dans le seul but de ne pas devoir utiliser leurs propres armées contre les citoyens du pays. Ce corps de police a été créé à l'initiative de l'ancienne ministre de la Défense française, Michèle Alliot-Marie, pour réprimer à l'avenir plus facilement les manifestations qui dégénèrent toujours à nouveau dans les villes françaises. Les médias français essaient depuis quelques semaines de réduire le rôle de cette structure militaire en prétendant que cette société n'est pas directement liée à l'Union européenne et juste fondée par certains membres de l'Union européenne. Les rumeurs sur la coopération de cette structure avec les forces de l'ordre se sont multipliées en France et dans le monde francophone après les photos publiées sur les réseaux sociaux qui montrent clairement la présence des éléments de Eurojetfor aux côtés des soldats français. L'intervention des éléments de cette structure de répression semble désormais évidente, surtout après l'augmentation des manifestations anti-Macronie en France, suite à la promulgation de la réforme de retraite par le président français. Tenant compte de la radicalisation des gestes policiers contre les protestations populaires en France, ce qui est déjà monté dans la répression du mouvement des Gilets jaunes, l'Élysée aura de plus en plus recours aux solutions brutales et antidémocratiques comme Rochefort.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat, diffusée depuis la capitale iranienne, Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous, je vous prie. Alors, nous parlerons dans ce débat des sanctions contre le réseau Presse TV, l'Iran qui dénonce l'hypocrisie occidentale sur la liberté d'expression. Alors, le lobby israélien a forcé l'arrêt de la diffusion de Presse TV dans les pays européens ainsi qu'aux États-Unis et au Canada. On va jusqu'à donc punir même des députés britanniques pour avoir coopéré donc avec Presse TV sous prétexte de terrorisme médiatique. Donc l'ironie totale. Alors que les réseaux comptent un très grand nombre de téléspectateurs à travers le monde, et Presse TV se dit la voix des sans-voix. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités, des experts de questions internationales, mais également juristes internationaux, en commençant par Elie Hatam, qui est justement juriste international, qui est avec nous depuis France, à Paris. Monsieur Elie Hatam, bonjour.
Bonjour et merci de votre invitation.
Tout le plaisir est pour nous. Un grand bonjour à Monsieur Morgan Lotz, depuis l'Alsace. Il est iranologue et juriste français. Bonjour, Monsieur Lotz.
Bonjour. Permettez-moi de vous remercier pour l'invitation et de saluer toute l'équipe ainsi que mon interlocuteur.
C'est à nous de vous remercier. Alors, ma première question va s'adresser à Maître Elie Hatam. Donc, Monsieur Hatam, on exerce des sanctions illégales contre le réseau Presse TV, donc depuis fort longtemps. Bien sûr, c'est le lobby sioniste qui est derrière ça. Alors, pourquoi on se permet de parler de la liberté d'expression alors qu'on exerce des sanctions à l'encontre des chaînes telles que Presse TV sous prétexte de terrorisme médiatique, à votre avis, je vous prie?
Oui, alors, il faut savoir une chose. Contrairement à l'idée perçue, c'est que l'Occident et l'Union européenne ne sont pas si libres que ça. Vous savez, en Occident, je l'ai toujours dit, nous sommes dans une dictature sans dictateur apparent. C'est-à-dire, vous pouvez parler de certaines choses librement, mais il y a des cartons rouges et que vous ne pouvez pas dépasser. Alors, surtout dans cette question de sort la plupart du temps, quand vous dépassez cette limite en ce qui concerne l'antisémitisme. Il suffit aujourd'hui de critiquer ou de lancer une critique à l'encontre du sionisme pour mélanger l'antisionisme à l'antisémitisme. Pourquoi et comment? Parce qu'il y a une propagande qui a été faite en Occident pour donner une certaine image de la question palestinienne et même aussi de la question, en fait, du judaïsme politique, tout simplement. Alors, aujourd'hui, on le voit sur le terrain, c'est que la critique d'Israël est faite aujourd'hui par les gens qui sont dans l'entité sioniste et qui critiquent ouvertement, en fait, le sionisme. Alors, ce que Presse TV fait, elle dérange cette propagande. Elle montre la réalité telle qu'elle. Et c'est la raison pour laquelle on utilise une armada, donc qui est celle de ce bouclier, pour faire taire, pour ne pas découvrir, pour que l'opinion publique ne découvre pas la réalité. Parce que sinon, ça va être la boîte de Pandore. Et puis, il y aura pas mal d'éléments qui vont être dévoilés. Alors, vous avez parlé de l'Anti-Defamation League aux États-Unis. Mais il ne faut pas oublier que c'est elle qui a créé l'AIPAC. Et c'était le principal, je dirais, support du sionisme mondial et du judaïsme politique. Or, comme vous le savez, c'est que le sionisme a été très fortement critiqué par beaucoup de communautés juives dans le monde, y compris aux États-Unis. Et la crainte est aujourd'hui, c'est que comme Presse TV, elle est en train de donner la réalité sur le terrain, y compris peut-être en dénonçant certaines dérives au sein du judaïsme politique, que cela ne porte atteinte en fait à cette propagande, à ce travail politique de longue durée. Si vous voulez, pour schématiser, c'est un peu la même technique que Daesh. Imaginez-vous que vous êtes en train, dans des endroits qui sont sous la domination de Daesh, en train de dénoncer l'islam politique. Vous allez être de la même manière sanctionné par le système propagandiste et ou médiatique de Daesh, parce que vous portez atteinte à la propagande islamiste de Daesh. Donc c'est en résumé la façon dont pensent aujourd'hui ces meneurs d'opinion en Occident, qui veulent avoir une sorte de stéréotype de l'opinion publique occidentale.
Absolument. Merci, M. Eliatin, pour cette introduction. À présent, j'aimerais connaître celle de M. Morgan Lotz, qui est avec nous depuis l'Alsace. Je rappelle qu'il est iranologue et juriste français. Alors, M. Lotz, qui et pourquoi qui craignent Presse TV, qui se dit donc la voix des sans-voix? Je vous prie.
Donc, pourquoi les Occidentaux craignent-ils Presse TV? Tout simplement parce que, comme disait justement mon collègue tout à l'heure, l'Europe est une dictature sans dictateur apparent. C'est un système qui domine, qui dirige. Les hauts fonctionnaires européens ne sont pas élus par le suffrage universel. Ce sont des gens qui sont nommés par leurs amis bien placés. Et ce qu'il apparaît ces dernières années, c'est que ce système est en train de craquer, puisque c'est un système qui est profondément inégalitaire et qui a de plus en plus de mal à contenter la population qui se voit dépouillée de ses droits les plus fondamentaux. Nous avons vu ça notamment pendant la crise de la pandémie de Covid-19, où toutes les voix dissonantes étaient tues. Par exemple, les vaccins américains qui ont été faits à la va-vite, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a des effets secondaires très graves. On parle quand même de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de morts, de problèmes cardiaques, de complications de santé dues à ces injections qui ont été faites à la va-vite et sans prendre les précautions nécessaires pour ce genre de choses. Et durant cette crise, il y a eu beaucoup de scientifiques qui se sont élevés, qui ont émis des mises en garde. Et on s'est rendu compte que cette voix dissonante gênait. Donc à partir de 2020-2021, l'Europe et la France notamment ont pris de plus en plus de mesures pour lutter contre ce qu'ils appellent les discours complotistes. Aujourd'hui, on en est arrivé à un point où aujourd'hui, vous avez deux sortes d'informations. Vous avez les gens qui, les journalistes, disent ce que le gouvernement dit, ce sont les grands médias français notamment, et ceux qui ont des versions différentes. Et la nouvelle mode, c'est de les traiter de complotistes. C'est un mot qui est apparu dans le débat public et qui permet de décrédibiliser toute pensée différente. Et donc, ces sanctions contre Presse TV s'inscrivent dans cette logique. Alors, on a vu également que les médias russes Sputnik et RT France ont été complètement censurés, au point que même en cherchant sur Internet, on ne peut plus y avoir accès en Europe, qui censure le site Internet. Il faut utiliser des systèmes comme des VPN pour changer l'adresse IP de l'ordinateur. Et les sanctions contre Presse TV s'inscrivent dans cette logique, puisque ce système européen, cette caste européenne qui domine, n'a absolument pas envie que la vérité éclate. Nous sommes arrivés à un point aujourd'hui où, pour voir ce qu'il se passe en France, voir certaines images de la répression des manifestants, on est obligé d'aller voir des médias étrangers. C'est quand même assez grave pour un pays comme la France qui prétend être le pays des droits de l'homme et de la liberté d'expression. C'est une liberté sélective selon les sujets. On ne peut pas aujourd'hui en France parler des affaires et des scandales qui éclaboussent le pouvoir, notamment celui d'Emmanuel Macron, qui a énormément d'affaires de détournement de fonds publics. on n'a pas le droit d'en parler. Il y a des journalistes qui ont des problèmes à cause de cela. Ce n'est pas nouveau. On se souvient déjà, durant la guerre contre le Yémen, que la France vendait des armes à l'Arabie Saoudite. Deux journalistes français ont enquêté sur le sujet et ont été arrêtés et interrogés par la sécurité intérieure. Donc, en France, et plus généralement en Europe, dès que vous touchez un sujet sensible qui dérange la propagande, qui dérange l'image embellie que les gouvernements européens ont envie de montrer d'eux-mêmes, dès que vous touchez à ça, vous êtes embêté et vous êtes censuré.
Absolument. Monsieur Elie Hatam, donc vous êtes d'accord sur beaucoup de points donc, avec Monsieur Morgan Lotz, mais il a évoqué l'hypocrisie occidentale, justement, sur la liberté d'expression en France, entre autres. Donc cette hypocrisie, cette politique de deux poids, deux mesures menée par certains pays européens, sinon tous, et les États-Unis, entre autres, pourquoi cela, à votre avis ? Comment se permettre cette hypocrisie, donc ? Oui. Allez-y.
Oui, je vais vous dire une chose, c'est que, vous savez, on critiquait le totalitarisme sous l'Union soviétique. Et donc, il y avait un monde libre qui était celui des États-Unis, de l'Europe, etc. Donc, mais les choses ont totalement changé, évolué depuis la fin de la bipolarisation. Et de plus en plus, il y a un projet politique qui est celui de la mondialisation. On appelle ça en anglais « globalization ». Donc, créer en fait un village universel où une certaine éducation donc des esprits, une propagande qui doit être faite pour forger les gens à avoir les mêmes principes, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, en Asie, en Afrique, etc. Et bien sûr, il y a des fonds, de l'argent qui circulent pour faire tout ce travail. Donc, quand vous venez déranger, et il faut prendre des mesures pour arrêter cette hémorragie-là et pour permettre à ce projet de continuer. Or, les choses aujourd'hui ont totalement changé. Il faut dire que l'Occident, les États-Unis, qui étaient ce monde libre face au totalitarisme, sont devenus, en fait, dans cette phase de ce qu'on appelle, ou dans cet espace globalisé ou mondialisé, qui exerce un véritable totalitarisme.
Maître Hatam.
Preuve en est.
Maître Hatam, excusez-moi de vous interrompre. Bon, c'est vrai que cette voie de Presse TV gêne beaucoup de pays occidentaux, donc. Mais cela ne va pas empêcher donc Presse TV ou d'autres chaînes iraniennes de ne pas continuer donc dans cette voie, Maître Hatam.
Absolument. Elle peut toujours continuer parce que, vous savez, il faut persévérer. Et il ne faut pas céder au chantage, il ne faut pas céder à cette dictature, il faut sortir de cette dictature. Surtout qu'aujourd'hui, on regrette la guerre et le conflit en Ukraine, mais quand même, cette situation a permis au monde d'évoluer. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un monde unipolaire. Et ce n'est pas moi qui le dis, simplement, mais c'est même la France, même dans certains pays, même de l'Union européenne. Et il y a une majorité des pays de la planète qui veulent sortir de cette dictature, que ce soit en Amérique latine, que ce soit le continent africain, l'Asie, le Moyen-Orient, l'Inde, le Pakistan. Et puis il y a même beaucoup de pays d'Europe qui attendent en fait de sortir de cette dictature parce qu'ils sont muselés. Et pouvoir exprimer librement, et preuve en est. Vous savez, comme l'a tout à l'heure très très bien expliqué votre invité, en parlant de ce qui s'est passé contre la presse russe, c'est complètement aberrant, c'est du jamais vu. On interdit l'accès aux chaînes russes en Occident, au sein de l'Union européenne. On interdit même aux avocats de défendre des Russes ou des intérêts russes au sein de l'Union européenne, alors qu'on a permis à des avocats quand même de défendre des terroristes. Autrement dit, c'est tout le système occidental qui est à la dérive et qui démontre que nous sommes dans un régime plutôt totalitaire, et c'est le totalitarisme qui règne sur l'Occident contrairement à l'ancien monde totalitaire qui devient aujourd'hui un nouveau monde libre où vous pouvez librement vous exprimer, où vous pouvez défendre la souveraineté des États, où on respecte le droit international public, où on respecte également les principes généraux du droit. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'il faut absolument multiplier des comptes et faire un jeu du chat et de la souris, autrement dit ouvrir un autre compte sur YouTube ou ailleurs et pouvoir continuer à démontrer la voie, ou plutôt à s'exprimer pour éclairer l'opinion publique. Il y a une soif. Aujourd'hui, l'opinion publique en Occident ne croit plus cette propagande médiatique qui s'exerce avec force. Vous regardez les chaînes en Occident. Ce sont des chaînes qui vous répètent le même discours pour vous convaincre. C'est à force de forger, ils pensent qu'à force de forger, qu'on devient forgeron. On vous ment la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, et après, vous êtes convaincu que ce mensonge est une réalité. Et c'est la raison pour laquelle il faut lutter pour faire sortir les gens de cet esclavage intellectuel. Quand on dit qu'il y a un terrorisme intellectuel qui est exercé, ou un terrorisme médiatique, il y a effectivement en Occident un terrorisme médiatique qui vous montre le faux et non pas la réalité des choses. Aujourd'hui, par exemple, en Palestine, il y a des crimes de guerre qui sont commis, des crimes contre l'humanité par le gouvernement, par l'entité sioniste contre la population palestinienne. Et cela a été même quand même reconnu, et je vous donne un exemple, je ne citerai pas la pléthore de résolutions, mais la dernière résolution de l'Assemblée générale des Nations unies du 30 décembre 2022, la résolution 77/247, qui condamne ces actes qui sont commis par les forces d'occupation israéliennes contre la population palestinienne. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est cette résolution qui parle d'une occupation donc, de la Palestine et qui dénonce ce génocide permanent de la population palestinienne. Et ça, il n'y a aucun média occidental qui en a parlé. Et pourquoi ? Parce qu'on a peur de cette dictature, de cette, ce terrorisme intellectuel et ce terrorisme qui s'exerce sur les médias et sur les moyens d'expression en Occident.
Je vais m'adresser à nouveau donc à Maître Ali Hatam. Alors, Maître Ali Hatam, que fait-on donc de la curiosité donc des populations occidentales ou des États-Unis et du Canada qui sont donc qui voient que Presse TV par exemple, qui est la voix des sans voix, est sanctionnée? Est-ce qu'ils revendiquent donc le droit donc que Presse TV soit écoutée et vue par la population occidentale?
Écoutez, certainement, parce que vous savez, contrairement à ce qu'on pense, aujourd'hui en Occident, il y a de plus en plus dans l'opinion publique occidentale un réveil. Et ce réveil, c'est que les médias auxquels nous étions habitués, qui nous racontaient une certaine vérité en toute liberté, ils se rendent compte de plus en plus qu'il y a une propagande qui les force à avaler, à absorber le discours officiel qu'on leur donne et que vous ne pouvez plus, en fait, critiquer, comme l'a expliqué tout à l'heure M. Lotz, la vérité ou le discours officiel, sinon vous êtes traité de complotiste. C'est l'expression généralisée pour discréditer, en fait, ceux qui vous imposent ce discours public et officiel. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a un réveil dans l'opinion publique en disant « aujourd'hui, nous avons besoin de l'avis et d'un contre-avis ». C'est que ce n'est pas le discours officiel comme du temps de l'Union soviétique ou du régime communiste qu'on vous impose le discours officiel et vous êtes tous obligés de le tenir et de le répéter, de le matraquer, et si vous sortez de cette ligne-là, vous êtes condamné. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'Occident. Et les gens se rendent compte, c'est ce que je disais au départ et qui a été repris par M. Morgan Lotz, en disant toujours que nous sommes dans une dictature sans dictateur apparent. Les gens ont peur de parler, les gens ont peur de s'exprimer, les gens ont peur d'avoir leur téléphone sur eux.
Absolument. Monsieur Morgan Lotz, est-ce que vous voulez bien réagir face aux propos de notre ami Maître Hatam quand il parle de la détermination donc, de l'Iran de rester fidèle à ses principes malgré toutes ces sanctions? et rester toujours la voix des sans-voix.
Oui, c'est d'ailleurs ce qui fait la noblesse de votre combat. Et à titre personnel, je ne peux que vous féliciter, vous remercier d'avoir encore le courage de continuer et de ne pas courber les chines devant des gens de mauvaise foi qui refusent la pluralité et le respect des peuples. Quand on dit que Presse TV, je vais reprendre cet exemple, quand on dit que Presse TV promeut la haine des juifs, mais moi je ne peux qu'être scandalisé d'entendre ça. Mon premier métier, c'est celui d'être iranologue. Ça consiste à étudier l'Iran, donc autant vous dire que je connais assez bien votre pays et je peux témoigner que l'Iran est tout sauf un pays antisémite. Je vais d'ailleurs illustrer mon propos en rappelant que le Parlement iranien, l'Assemblée consultative islamique, le Majlis en persan, qui compte 280 députés, a des sièges réservés pour les minorités religieuses à partir de 200 000 représentants. Donc on trouve un député zoroastrien, on trouve deux députés chrétiens
Lutz,
et on trouve également un député juif.
Monsieur Morgan, beaucoup de pays ne peuvent pas dire autant, n'est-ce pas ?
Tout à fait, tout à fait. Nous n'avons pas en France, vu qu'on a, nous avons un système dit laïque, nous n'avons pas de députés de minorités religieuses et les signes religieux sont même proscrits. On interdit aux gens d'exprimer leurs croyances religieuses, leurs convictions religieuses. Donc en Iran, ce n'est pas le cas. Et on peut également illustrer récemment, et ceci je peux même citer l'article qu'a fait Presse TV et le reportage, sur les obsèques d'un soldat iranien chrétien qui a été retrouvé après 38 ans, puisqu'il était décédé durant la guerre imposée à l'Iran par l'Irak bassiste de Saddam Hussein. Son corps a donc été retrouvé après 38 ans, et il a été inhumé selon le rite chrétien, et sur son cercueil, il y avait même le drapeau iranien sur lequel était posée une croix chrétienne. Je ne connais pas beaucoup de pays, à part l'Iran, qui toléreraient une telle chose et qui fait preuve d'une telle ouverture.
Absolument.
Les témoignages enregistrés des Iraniens, puisque savoir que les Iraniens qui ne le connaissaient pas se sont réunis lors de ces obsèques pour rendre hommage à quelqu'un
Absolument.
Qui a protégé son pays et sa population. Et donc beaucoup de gens ont été interrogés par les médias.
D'accord.
Il expliquait bien, c'est un soldat qui est mort pour notre pays, peu importe sa religion, nous l'honorons.
Absolument. Cela.
Ça montre cette tolérance qu'ont les Iraniens envers les minorités religieuses, contrairement à ce que nous disent les médias occidentaux où l'Iran serait une dictature horrible, où les chrétiens seraient persécutés.
Absolument.
C'est totalement faux.
Voilà, ça résume tout le principe donc, de Presse TV. Morgan Lutz, iranologue et juriste français, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Un grand merci à Maître Elie Hatam, également juriste international, qui nous a accompagnés depuis Paris. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Avec nous pour un autre programme portant sur l'actualité de l'Asie de l'Ouest. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce programme. Le leader de la révolution islamique, l'ayatollah Ali Khamenei, a appelé les enseignants iraniens à promouvoir l'identité iranienne et islamique auprès des enfants. L'Ayatollah Khamenei a fait ses remarques mardi 2 mai dans une allocution devant un groupe d'enseignants et d'universitaires à l'occasion de la Journée nationale des enseignants qui marque l'anniversaire du martyr de l'Ayatollah Morteza Motahari, qui est tombé en martyr assassiné par le groupe Forran peu après la victoire de la révolution islamique. Le leader a déclaré que raviver le sentiment d'identité irano-islamique et de personnalité nationale chez les jeunes intelligents du pays est un devoir fondamental. L'Ayatollah Khamenei a ajouté que renforcer l'identité iranienne et enseigner le mode de vie islamo-iranien sont parmi les principales exigences du système éducatif du pays. Le leader a appelé les autorités à réviser le parcours actuel de l'éducation et à évaluer sa productivité pour le pays. La politique principale de l'éducation devrait être basée sur l'enseignement des sciences utiles répondant aux besoins actuels et futurs du pays, a déclaré le leader. Décrivant les enseignants et les universitaires comme les joyeux précieux de la jeune génération et des adolescents et les futurs architectes du pays, l'Ayatollah Khamenei a souligné qu'il n'est pas possible de progresser sans l'aide du système éducatif. Le leader a également félicité les enseignants du pays pour leurs efforts dans l'éducation des enfants malgré les difficultés. À l'occasion de la semaine du travail, le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, a reçu en audience plusieurs travailleurs ce samedi 29 avril. Lors de cette réunion, le leader de la révolution islamique a souligné qu'il faudrait barrer la route aux individus qui accumulent la richesse sans la moindre peine. Il a mis l'accent sur le lien direct entre le revenu et travail. Le revenu doit être directement lié au travail, a-t-il réaffirmé avant de poursuivre. Si un responsable n'a pas le courage d'affronter la corruption à l'intérieur du pays, il n'aura pas le courage de combattre le despotisme étranger. On espère que le gouvernement populaire et le Parlement révolutionnaire poursuivront la lutte contre le dragon à cette tête de la corruption, a-t-il souligné. Et le leader d'évoquer l'importance du travail. Le travail équivaut à la survie d'une société. Le travail est l'épine dorsale de la vie. On admire l'ouvrier, mais une admiration verbale ne suffit pas. Il faudrait agir pour dénouer les problèmes des travailleurs. Les responsables gouvernementaux, les entrepreneurs et les investisseurs doivent savoir que si des efforts sont entrepris pour améliorer le niveau de la vie, le pays s'épanouira. Lorsque le travailleur n'a pas de soucis et qu'il jouit de la sécurité de l'emploi et que sa vie se déroule bien, la qualité du travail et du produit augmentera, a encore souligné le leader de la révolution islamique. L'Iran a arrêté des membres d'un réseau ayant des liens avec des groupes contre-révolutionnaires marxistes, locuteurs terroristes de l'organisation Mujahideen Khalr, OMK, et des espions français. Citant des sources bien informées, l'agence de presse Fars News a rapporté que tous les détenus avaient été déjà arrêtés et libérés en vertu des grâces accordées par le leader de la révolution islamique, l'Ayatollah Ali Khamenei. Les personnes arrêtées avaient étatisé les tensions dans le pays, contribué à des rassemblements de travailleurs, d'enseignants et à des grèves nationales et relancé les faux plans d'empoisonnement dans les écoles. Mariam Assadollahi, surnommée Anisha, et Reyhane Ansari figurent parmi les détenus. Elles ont été placées en garde à vue l'année dernière pour leurs liens et leur coopération avec deux espions français. Les espions français étaient entrés en Iran en 2022 avant la Journée nationale des travailleurs et des enseignants afin d'organiser des émeutes et de transférer de l'argent à leurs agents. Ils ont été arrêtés par les services de renseignement et leurs affiliés iraniens ont été identifiés. Les nouveaux détenus s'étaient rassemblés au domicile d'un ancien chef d'un syndicat autoproclamé et illégal. Dirigé par des éléments étrangers, la réunion s'est tenue sous forme de visite aux familles des prisonniers. Le procureur irakien ordonne une enquête sur le rôle de l'ancien premier ministre Mustafa al-Kazimi dans l'assassinat du général de corps d'armée iranien Rassem Soleimani. Shafar News a rapporté que des documents officiels délivrés par le chef du parquet le 4 avril et dévoilés le 30 avril montraient que le procureur général avait ordonné au tribunal fédéral spécialisé dans les enquêtes criminelles d'engager des poursuites judiciaires suite à une plainte déposée contre Al-Kazimi et d'informer ensuite le bureau des résultats. Le tribunal doit examiner une plainte déposée par Hossein Monis, le chef de Harakat Tahrir, au mouvement des droits, contre Al-Kazimi en tant qu'ancien chef du renseignement. Harakat Tahrir est l'aile politique du groupe antiterroriste irakien Kataib Hezbollah. Les autorités pénitentiaires israéliennes ont déclaré qu'un haut responsable du groupe de résistance du djihad islamique de la Palestine, Khazer Adnan, est décédé dans une prison israélienne après une grève de la faim de 87 jours. Les services pénitentiaires israéliens ont annoncé dans un communiqué qu'Adnan avait été retrouvé sans réaction dans sa cellule de la prison de Nitzan, dans la ville centrale de Ramle, avant l'aube mardi matin de mai. Il a été amené au centre médical Shamir à l'extérieur de Tel Aviv, mais a été déclaré mort à l'hôpital. Plus tôt dimanche, un tribunal israélien a refusé de libérer le gréviste de la faim palestinien malgré la détérioration de son état de santé. Dans des remarques de presse au centre d'information palestinien, l'épouse d'Adnan, Randa Moussa, a affirmé qu'un tribunal israélien a rejeté l'appel soumis pour libérer son mari sous caution. Le tribunal a fixé une autre session au 10 mai, a-t-elle dit. Elle avait averti que l'état de santé de son mari était très critique en raison de sa grève de la faim prolongée qu'il avait entamée plus tôt cette année. Adnan a été arrêté le 5 février et a immédiatement entamé une grève de la faim pour protester contre sa détention illégale. Il souffrait de graves problèmes de santé à la suite de la grève, notamment de fréquents vomissements de sang, une faiblesse grave, des pertes de conscience fréquentes, des difficultés à parler, à se déplacer, à dormir et à se concentrer, et des douleurs intenses dans tout le corps. Au cours des 20 dernières années, Adnan a été arrêté à une douzaine de reprises par les forces israéliennes pour ses activités politiques et anti-occupation. Il a passé un total de 8 ans derrière les barreaux. Des centaines de détenus ont été incarcérés dans le cadre de la pratique de la détention administrative. Les organisations de défense des droits de l'homme affirment qu'Israël viole tous les droits et libertés accordés aux prisonniers par la 4e Convention de Genève. Ils disent que la soi-disant détention administrative d'Israël viole leur droit à une procédure régulière puisque les preuves sont cachées aux prisonniers alors qu'ils sont détenus pendant de longues périodes sans être inculpés, jugés ou condamnés. Les médias palestiniens ont rapporté l'activation des sonnettes d'alarme dans les territoires palestiniens occupés suite à une attaque à la roquette par des groupes de résistance mardi 2 mai. Plus de 20 roquettes ont été tirées sur les positions du régime sioniste autour de la bande de Gaza. La radio de l'armée israélienne a également confirmé ce rapport quelques minutes plus tard. Les médias israéliens disent comment une roquette a touché la colonie de Sderot, au nord-est de la bande de Gaza, et que des habitants de cette colonie avaient été blessés. La résistance palestinienne a annoncé dans un communiqué que cette attaque avait été menée en réponse au martyr de Khazer Adnan, un haut responsable du mouvement djihad islamique de la Palestine. Le porte-parole de l'armée israélienne a confirmé dans un communiqué que 22 roquettes avaient été tirées depuis la bande de Gaza vers les colonies israéliennes et que le Dôme d'Ofer n'avait réussi à en intercepter que 4. Des frappes israéliennes sur la province d'Alep dans le nord de la Syrie ont causé la mort d'un soldat, blessé 7 personnes, dont 2 civils, et atteint l'aéroport international local qui n'est désormais plus opérationnel selon un média d'État. Vers 23h35, lundi 1er mai, l'ennemi israélien a conduit une attaque aérienne avec plusieurs missiles en ciblant l'aéroport international d'Alep et un nombre de lieux à proximité de cette ville, a rapporté l'agence officielle syrienne Sana, citant une source militaire. Un soldat a été tué et 7 personnes ont été blessées, dont 2 civils, a ajouté l'agence Sana, qui a fait état de pertes matérielles et a indiqué que l'aéroport d'Alep est hors service. l'Observatoire syrien des droits de l'homme, vitrine médiatique de l'opposition pro-occidentale basée à Londres, a relaté un nombre d'explosions dans les zones où sont situés l'aéroport international d'Alep et l'aérodrome militaire de Nayrab, dans la province d'Alep, ce qui a entraîné un incendie dans un dépôt de munitions. L'armée syrienne a annoncé pour sa part que les défenses aériennes du pays avaient intercepté des missiles israéliens abattant la plupart d'entre eux. Certaines sources non officielles affirment que les avions de combat israéliens ont tiré au moins 22 missiles vers Alep, dont 17 ont été interceptés par les systèmes de défense de l'armée syrienne. Israël effectue fréquemment des attaques de missiles sur des cibles en Syrie en utilisant principalement l'espace aérien du Liban ou des territoires occupés. Voilà, ainsi s'achève ce programme. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, au revoir et passez une très bonne semaine.